Alice, vous êtes bien sur Radio Galère 88.4. Sur Libre Débat, vous allez écouter dans un premier temps une réalisation radio participative faite il y a un an et demi à la Belle de Mai avec l'association En Chantier. Et dans un deuxième temps, vous entendrez une réalisation sonore qui défend la nécessité d'une salle de consommation à moindre risque et nous allons essayer de comprendre pourquoi ce plaidoyer. Je vous souhaite bonne écoute sur Radio Galère 88.4 dans l'émission Libre Débat.
Café causé.
Bonjour, je te demande comment ça va.
C'est la Nassel Sonos.
Bonjour à tutti, comment va?
Adieu, il est en Venise.
Salut moi,
Paripses, in spesse, geboloret.
Heutzame, wie geht's euch?
Goeiedag allemaal, ik hoop dat alles goed gaat met jullie.
Salam bar hama, roze hama bakhair. Omeedwoord dat ze me goed zijn gehoord bashen.
Bom dia, tudo bom?
Onu mare, tana munana, oni sene.
Bonjour, aslama. Bonjour, aslama.
Buona giornata a chi va a Fuyen e nessuno va a incontrà. Buona giornata a chi non si sente e c'è noi stessi a faticare. Buona giornata.
Café causé.
Une radio participative à la Belle de Mai, 36 rue Bernard. Ok.
Écoute, nous, Maroc, surtout le nord du Maroc, les montagnes, etc., on a l'habitude de...
Bonjour, vous êtes sur la toute première émission Café Causé, qui aurait dû ouvrir son espace à la Belle de Mai, à côté de la cantine de midi et de la drogueria. Et oui, Café Causé, c'est encore une autre et une nouvelle tentacule de l'association En Chantier. Le Café Causé aurait dû ouvrir, mais avec le confinement, on s'est imaginé autre chose, un espace hors des murs, en fait, un espace radio participatif. On s'est dit qu'il n'y avait rien de mieux qu'une radio participative, une web radio pour garder le lien durant cette période de confinement qui a commencé le 16 mars dernier. L'idée est donc d'offrir un espace d'expression, on se disait que c'était nécessaire, c'est pourquoi le Café Causé a proposé de récolter des sons enregistrés et envoyés par diverses personnes en fait. Et l'idée c'était de rassembler, de croiser toutes sortes de témoignages et on avait envie d'ouvrir un lieu d'expression pluriel avec des langues plurielles, de création audio de tout genre. Le principe est simple. Une fois par semaine, on a envoyé différentes thématiques. Alors la première thématique, c'était de lancer un appel à contribution sonore sur « Bonjour, comment ça va ?» en toutes les langues. C'est ce qui a donné un jingle. La deuxième semaine, on a proposé une thématique sur « Alors, est-ce que tu peux nous chanter une berceuse, celle que tu chantes à tes enfants ou celle qui t'a bercé durant toute ton enfance ?» Ce qui a créé une chronique spéciale, berceuse, qui est assez chouette, vous l'entendrez. Et la dernière chronique, c'était « Partage-nous tes expériences durant ce confinement ». Et il y a aussi un espace de libre expression où les gens ils peuvent envoyer ce qu'ils ont envie d'envoyer sous forme de poésie. On va écouter ça durant toute l'émission. Je vous souhaite donc une bonne écoute et bienvenue à vous dans cette nouvelle émission radiophonique de Radio Participative de Café Causé, la toute première émission. Je vous souhaite donc une très bonne écoute.
Im Traumschiffen sind die Nacht.
Je vais vous chanter la berceuse que ma mère elle m'a chantée tout le soir quand j'étais petite. C'est pas une berceuse très connue, mais c'est une berceuse à laquelle je tiens beaucoup.
Schlaf, Anne, schlaf, nur ein, bald kommt die Nacht, hat sich aus Wolken Pantoffeln gemacht, kommt von den Bergen, kommt von ganz weit. Schlaf, Anne, schlaf, nur eins ist Schlafenszeit. Kommt von den Bergen, kommt von ganz weit. Schlafen, schlaf nur eins, ist Schlafenszeit. Schlafen, schlaf nur ein, bald kommt der Mond, der draußen hinter den Birnbäumen wohnt. Einer davon kitzelt ihn sanft am Kinn, lächelt der Mond und zieht leise dahin. Einer davon kitzelt ihn sanft am Kinn, lächelt der Mond und zieht leise dahin. Schlaft alle, schlaft nur ein, bald kommt ein Traum. Schlüpft dir zum Ohr hinein, merkst ihn erst kaum. Fährst auf dem Traumschiff ans Ende der Nacht, bis dir der Morgen die Augen aufmacht. Fährst auf dem Traumschiff ans Ende der Nacht, bis dir der Morgen die Augen aufmacht.
Une spéciale berceuse. Moi, personnellement, dès que je la chante à mes filles, surtout quand elles étaient petites, ou bien même maintenant.
Ça va, c'est Imen. Nous, au Maroc, surtout le nord du Maroc, les montagnes, etc., on a l'habitude de bercer nos bébés avec une spéciale berceuse. Moi, personnellement, dès que je la chante à mes filles, surtout quand elles étaient petites ou bien même maintenant, en portant le bébé entre nos bras ou bien en caressant la tête de l'enfant, on chantait cela. Nani, 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 maman. Nani, 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 maman. On chantait ça et on chantait aussi nani, maman. Taïté bachana, damata bachana, te bachagirana, neni, 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 amomo. Taïté bachana, glamata bachana, te bachagirana. Et voilà! Il y en a plein d'autres, mais je laisse le reste pour les autres.
Qu'on chantait à ma tendre enfance dans tous les foyers kabyles dans les montagnes, qui est une chanson ancestrale qui a été reprise par Idir, d'ailleurs qui repose en paix. Ça fait 4 jours qu'il est décédé, donc ça m'a inspiré de la chanter, ça me rappelle des souvenirs. Donc c'est une chanson qui veut dire baraté. Baraté, vous savez ce que c'est tous, baraté. Ça veut dire baraté, sortir le beurre, sortir le meilleur du lait en fait. Et en même temps, ça veut dire bercer aussi. Ça assimile, quand on était petit, on se faisait en fait bercer par nos mamans, par nos grand-mères. Elles nous chantaient ça. Donc bercer, c'est tirer le meilleur de l'être, quoi, de l'être humain. Ainsi que baraté. C'est exactement la même chose. Voilà.
Sendo, sendo,
كردو ذي ذا ملال
السندوس السندوس أكد من شرب وفال أكد من شرب وفال وردو ما يغير أبتدوش تبوهي أكد من
عندو ما يغيظ قد ثوارش البوذي ما كنت نتمني فخصي ذي حزني فالسن ذي كما يسعي غضل بضنا ولما نضيت والسن الحفي الزوزني تشنا نزد غرما السن دو تخصيتي وثغرا ملهما يغينا ذي اندو يفرو هذي اندو يفرو صلفض لك كبائد الماء صلفض لك كبائد الماء السندو
ثورة لتوالي غرب دازل غرمي درغ ثترا بغيظ كما الدرض زال صندوق سفوس القيسودي وفراريات حرقي زال اكساد عبر ذن نفسيس عبر ذن نفسيس ثمارت ذوار وزال ثمارت ذوار وزال
Alors, pour endormir mes enfants, j'ai chanté je ne sais pas combien de berceuses, parce que c'est une partie de mon travail de connaître beaucoup de berceuses que je chante après à l'hôpital pour les enfants malades. Et il y a celle-là que j'ai souvent chantée à l'hôpital et qui marche vraiment bien. J'ai endormi je ne sais pas combien de bébés avec et j'ai jamais réussi à endormir aucun de mes enfants avec. C'est une chanson de Pierre Guérard. Ça n'a jamais marché. Mais c'est toujours cette chanson qu'ils ont voulu pour s'endormir.
Yeah.
c'était une berceuse que me chantait ma maman quand j'étais petite. Et ça m'a marquée parce que c'est une prière amérindienne qui viendrait probablement des Iroquois. Et c'est assez triste parce que ça parle de la famine et c'est une prière, c'est comme un autre père qui se traduirait par « Père, aie pitié de moi, car je meurs de soif, tout a disparu et je n'ai rien à manger ». Voilà, et ça fait écho à leurs conditions de dépendance et ça pourrait être comparable à ce qu'on vit aujourd'hui avec cette pandémie et ce confinement qui en est la conséquence. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Bonne journée.
Elle n'est pas venue, j'ai dit, et elle ne viendrait pas. Je remettrai en ordre la soirée comme il sied à ma déception et à son absence. J'ai éteint la flamme de ses bougies, allumé les lampes, bu son verre de vin et brisé sa coupe, remplacé la musique des violons trépitant par des chansons perçantes. J'ai dit, elle ne reviendrait pas. Je vais dénouer ma belle cravate, cela me reposera. Mettre un pyjama bleu, marcher pieds nus, si bon me semble. Je suis assis en tailleur, détendu, à sa place, sur la canapé, et je l'oublie. Et oublie tout ce qui rappelle l'absence. J'ai remis les objets apprêtés pour notre fête dans leur tiroir et j'ai ouvert tous mes rideaux et toutes mes fenêtres. Pas de secret de mon corps face à la nuit, si ce n'est que j'ai attendu et perdu. Je me suis moqué de mon obsession à purifier l'air pour elle. Je l'ai vaporisé d'eau de rose et de fleurs d'oranger. Elle ne viendrait pas. Je déplacerai l'orchidée de la droite vers la gauche pour la punir de son oubli. J'ai recouvert d'un manteau le miroir au mur pour ne pas voir le reflet de son image. Et je m'en suis repenti. J'ai dit, je vais oublier les emprunts aux poèmes d'amour anciennes. Elle ne mérite pas un seul poème, même plagié. Je l'ai oublié, j'ai pris une rapide collation, debout, lu le chapitre d'un manuel scolaire sur les planètes lointaines. Et pour oublier ces torts, j'ai écrit un poème. Ce poème.
لم تأتي. قلت ولن. إذن سأعيد ترتيب المساء بما يليق بخيبتي وغيابها. أطفأت نار شموعها، أشعلت نور الكهرباء، شربت كأس نبيذها وكسرته، أبدلت موسيقى الكمنجات السريعة بالأغاني الفارسية. قلت لن تأتي. سأنضو ربطة العنق الأنيقة، هكذا أرتاح أكثر، أرتدي بيجامة زرقاء، أمشي حافيا لو شئت، أجلس بارتخاء القرفصاء على أريكتها فأنساها وأنسى كل أشياء الغياب، أدوات حفلتنا إلى أدراجها وفتحت كل نوافذي وستائري. لا سر في جسدي أمام الليل إلا ما انتظرت وما خسرت. سخرت من هوسي بتنظيف الهواء لأجلها، عطرته برذاذ ماء الورد والليمين. لن تأتي. سأنقل نبتة الأوركيدي من جهة اليمين إلى اليسار لكي أعاقبها على نسيانها. غطيت مرآة الجدار بمعطف كي لا أرى إشعاع صورتها، فأندم. قلت أنسى ما اقتبست لها من الغزل القديم، لأنها لا تستحق قصيدة حتى ولو مسروقة. ونسيتها وأكلت وجبتي السريعة واقفا، وقرأت فصلا من كتابي مدرسي عن كواكبنا البعيدة، وكتبت كي أنسى إساءتها قصيدة. هذه القصيدة:
Tu m'as demandé pourquoi on a enregistré le poème de Mahmoud Darwish. La première chose, pour moi, c'est très intéressant, Mahmoud Darwish, parce qu'il est un Palestinien et moi je suis Palestinien. La deuxième chose, on a un livre ici, il est français-arabe, de Mahmoud Darwish, le poème de Mahmoud Darwish. Et je voulais le lire, ça fait longtemps. Après, avec le confinement, avec le temps long, le vide, on s'ennuie, on cherche quelque chose pour le faire, remplir le temps. Et j'ai commencé à lire le poème. Et j'ai aimé beaucoup de morceaux, il était très joli. Et j'essayais de lire avec une voix haute avec Bayra. Après, on a pensé de faire l'enregistrement avec la musique. Et j'ai aimé beaucoup. Et j'ai fait maintenant deux fois les choses. Moi et Bayra, le même poème. Et c'est clair qu'il y a beaucoup de temps, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Mais heureusement, moi, je ne sens pas beaucoup de nouiller un petit peu quand elle commence le soir. Et mais toujours j'ai dit à mon copain, allez, je vais aller vivre, mais c'est un mensonge blanche on dit en arabe. C'est pour marcher un peu et je mets le basket et je marche dans la maison. Chaque jour je dis Yallah, allez, je vais aller vivre. Et je marche dans la maison. Ouais, avec la cousine, je passe le temps avec sur le Facebook. Il y a des choses intéressantes maintenant. Je dis peut-être j'ai eu la chance avec le confinement. J'ai beaucoup lu de textes bien français, arabes. J'ai appris beaucoup de mots français et même des choses pour la série, des choses que j'ai pas su avant. Et pour ça, je suis contente un peu parce que j'ai appris des choses. Et c'est tout.
Bonjour Sarah, c'est Delphine. On s'est envoyé un petit mail au sujet de la radio. Alors mon petit mot pour y dire. Moi, une berceuse qui m'a vraiment accompagnée durant toute mon enfance et jusqu'à l'âge adulte, et qui a repris même de la valeur au moment où j'ai eu des enfants, c'est la célèbre Ababa Inouva. Et ben voilà, ça tombe juste quand le chanteur Idir est mort, donc ce chanteur berbère qui a beaucoup fait pour la culture kabyle. Je voulais envoyer un petit message et lui rendre hommage. Et rajouter aussi que bah, moi, j'ai jamais compris cette langue. Je n'ai fait que chanter l'air, la mélodie. Et quand on était petit, mon frère et moi, on écoutait cette chanson et on la chantait avec un langage inventé, le langage yaourt, comme on dit. On racontait n'importe quoi juste avec les sons qu'on arrivait à comprendre avec nos oreilles qui n'étaient pas habituées au berbère. Voilà, merci.
On met des graines de maïs. Et des lentilles, il y avait aussi des lentilles.
Et des lentilles.
Et on fait comment ça? Il faut les... coller.
Et il faut les coller.
On peut utiliser d'autres graines, n'est-ce pas?
On peut utiliser d'autres graines même.
Bonjour Aïdan. Alors, tu m'as dit que pendant cette période de confinement, tu es restée beaucoup à la maison. Et puis, tu as eu l'occasion de sortir avec ta maman. Et il t'est arrivé quelque chose de surprenant. Est-ce que tu veux nous raconter?
Oui, je suis sortie avec ma maman. Et tout à coup, j'ai entendu les oiseaux. J'ai dit, maman, écoute, regarde, on entend des oiseaux. Et dans le centre-ville, ça c'est très rare. On n'entend presque jamais les oiseaux.
Et tu penses, comment ça se fait que soudainement tu as entendu les oiseaux alors que tu n'as pas l'habitude de les entendre?
Ben ça me dit que la nature reprend un peu plus ses droits pendant cette période de confinement. Et que ben, j'aime pas beaucoup rester confinée, mais la seule chose que j'aime quand on reste confiné, c'est que ça, la nature, les animaux, les insectes, ils reprennent ses droits.
Et comment ça se fait qu'ils reprennent ses droits soudainement?
C'est parce que on consomme moins les voitures, les usines, elles ralentissent. Elles consomment moins.
Du coup, il y a moins de pollution, c'est ça?
C'est ça. Mmh. Et moi, ce que je veux, c'est que la nature, elle reprenne ses droits. Et du coup, après le confinement, j'aimerais bien que tout le monde ne consomme pas des objets polluants. Par exemple, on utilise moins les usines, on se déplace plutôt avec des vélos, mais si on est malade et qu'on n'arrive pas à pédaler, on prend une voiture électrique. Mmh. Et moi, je voudrais vous dire, restez à la maison, et après le confinement, j'espère qu'on va partager ce monde.
Merci Aïdan.
Merci d'avoir écouté notre toute première émission, l'émission Café Causé.
Café Causé.
Bonjour, je te demande comment ça va.
Salam, Nasr Sanaz.
Bonjour à tutti, comment va?
Adieu, il est en Benèse.
Բարևձեզ, ինչպես եք բոլոր հետ?
Հայց ամը վիգոց ոյ։
Քույրը խելամալ, իկոպ դատ ալուս հուտ կարդ մետյուլի։
Սալոմ բար համը, ռուզ համը բախայր, ու մետ որ ասմ խուբ զարհոր բաշը։
Բոմ դիյա, տուրու բոմ։
Որնու մարը, տանամ ունանա, որնի սենը։
Buona giornata a chi va a Fuyen e nessuno va a incontrà. Buona giornata a chi non si sente e c'è noi stessi a faticare. Buona giornata.
Café Causé, une radio participative à la Belle de Mai, 36 rue Bernard. Ok.
Envoyez-nous vos contributions sonores par mail à cafécausé@enchantier.org ou au 06 12 19 77 65.
Et là, il y a tout ce monde, et ça, il y a un petit qui a ouvert le...
C'est ça ? Ah oui, je m'en attendais pas aussi, non ?
En juin 2021, je me suis retrouvée dans les locaux du Tipeee à Marseille. Le Tipeee, c'est un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de la drogue. Ce jour-là, un certain nombre de personnes viennent découvrir deux bâches destinées à être exposées pour la quinzaine des stupéfiants. Et sur ces bâches, il y a une sélection de photos où des usagers donnent à voir comment la consommation dans l'espace public est complexe. Par la méthode des photovoix, les usagers participent ainsi au projet EPOSI, qui est une étude scientifique pour l'ouverture d'une salle de consommation à moindre risque. L'usager participe à la fois au plaidoyer pour l'ouverture d'une salle de consommation et aux résultats de la recherche. Je vous invite à découvrir cet univers sonore qui vous parle de ce moment où se prépare l'exposition de la quinzaine des stupéfiants pour juin 2021.
Avec toutes les photos qu'on avait, oui, c'est ça, on aurait pu faire à l'infini, quoi. Ah, c'est intimidant un peu, hein, ce gros papier craft.
Donc là, il y a les deux bâches.
Il y a deux bâches à la table. Ben, on espère, comme on n'a pas ouvert. Ouais, c'est ça, ça fait tellement drôle. Une grosse pub, ouais.
C'est du conseil général.
Moi, je les ai déjà un peu vus en petit.
Oui, voilà, on a eu les photos. Mais apparemment, ça a été Ça a été refait un petit peu, ouais. Ça a un petit peu changé depuis qu'on nous a envoyé les photos. Donc, Puis moi, j'ai eu qu'une seule bâche. Toi, t'as eu les deux. Moi, j'ai les photos que d'une seule, en plus. Du coup, la jaune, genre.
Ouais, c'est pas fini parce qu'on attend l'expo. Ça va être exposé dans plusieurs endroits. Du coup, c'est le début d'autre chose. Mais en tout cas, c'est là qu'on va voir ce qu'on a créé ensemble la dernière fois, quoi. C'est une étude à la base qui concerne la salle de consommation à moindre risque qui doit ouvrir à Marseille, du coup qui va ouvrir à Marseille. Et l'idée, c'était de faire une étude participative, du coup réellement, où on a eu des appareils photo jetables avec 27 poses. On a dû chacun réaliser 27 poses qui montraient, selon nous, l'usage de drogue, enfin spécialement l'injection, à Marseille. Pour nous, voilà. Du coup, chacun a fait des photos différentes qu'on a pu voir ensemble et sélectionner pour arriver à faire un travail collectif que du coup on est en train de déballer à l'envers.
Yes.
Ouais, donc là il manque une partie. Hein.
Tu vas tenir ?
Déjà à deux, c'est lourd.
Ouais, un peu, hein.
Du coup, l'atelier de la dernière fois, on a rechoisi, on a resélectionné des photos et on a essayé de faire des espèces, bah, une espèce d'histoire ou des espèces de lignes de trame comme ça. De les mettre dans des catégories et tout. Et du coup, après, nous, la mise en page, c'est pas nous qui l'avons faite. Mais par contre, on a choisi un peu comment se situaient les photos dessus et quelle histoire ça voulait raconter, on va dire.
Et quelle histoire ça raconte?
Eh ben, c'est un peu aux gens de... C'est un peu aux gens d'essayer de comprendre. En fait, il y a plusieurs trucs. Là, par exemple, sur une partie, on voit un peu la chronologie en partant de là où on va chercher le matos jusqu'au moment où on s'injecte. Après, voilà, on a voulu montrer un peu ce que c'était que de se piquer en ville, on va dire, donc en ville ou chez soi, dans quels endroits ça pouvait se faire. Je sais pas, t'en parleras sûrement mieux que moi.
Non, l'idée qu'on avait dit la dernière fois aussi, c'était montrer, du coup, parallèlement... l'usage en extérieur, du coup, qui renvoie à la salle de conso à moindre risque, surtout pour les personnes qui n'ont pas de domicile, du coup. Mais parallèlement, comme dans l'équipe, on était plusieurs quand même à avoir des domiciles, on a aussi voulu montrer l'usage en squat ou enfin en intérieur, pas en extérieur, qui est aussi une réalité. Il n'y a pas que ce qu'on voit, que ce qui est visible, l'usage de drogue. C'est aussi toutes les personnes qui ne sont pas visibles, qui restent insérées, qui ne sont pas précaires. Il n'y a pas qu'un type.
Et pour vous, c'était important de participer à ce projet et défendre l'idée d'une salle de consommation à moindre risque. Pourquoi ?
Parce que moi je suis professionnelle en même temps, du coup je travaille dans la réduction des risques et que ça a montré depuis longtemps son efficacité et qu'à Marseille il y a beaucoup de gens qui s'injectent dehors parce qu'ils n'ont pas de domicile.
Et dans des conditions qui sont vraiment pas, c'est ça, pas terribles. Et même en intérieur d'ailleurs.
Il y a des lieux dehors.
Par exemple, moi je m'injecte pas, hein, mais je sais que j'habite près de là où les gens achètent, etc. Et j'ai beaucoup de potes qui viennent se shooter chez moi parce qu'ils veulent pas faire ça dans la piste ou dans des trucs. Enfin voilà. Et du coup, mon appart est devenu un lieu de shoot alors qu'en fait. Enfin, je préférais qu'ils aillent faire ça dans un truc spécialisé, en fait. Parce que moi, chez moi, c'est pas spécialisé pour ça. Enfin, je veux pas faire ça toute ma vie non plus. Donc, ce serait bien qu'il y ait un endroit pour qu'ils puissent le faire bien.
Quand tu dis spécialisé, ça veut dire quoi ?
Bah, je sais pas, où ils sont tranquilles, où ils se sentent, où ils peuvent passer quand ils veulent, où ils peuvent se piquer dans des bonnes conditions, voilà.
Comme tout le matériel à disposition, déjà. Tout le matériel, tout le monde n'a pas toujours tout sur soi et les carudes, enfin les endroits où on peut prendre du matos, c'est pas ouvert tout le temps, notamment les week-ends et le soir après 17-18 heures. C'est difficile de s'en procurer. Du coup, s'il y avait une salle de conso, déjà, ça, pour se procurer du matériel à la plus grande amplitude. Et pour éviter toutes les scènes de conso qu'on voit, notamment à la Busserine, où c'est vraiment dans des endroits, par exemple, un transformateur électrique. Et du coup, où c'est vraiment, on voit que les gens, il y a eu de multiples passages, et il y a plein de gouttes de sang, par exemple, et les gens reconsomment par-dessus.
La plupart des gens ne veulent pas voir ça devant leurs yeux. Donc autant que ça se fasse dans des lieux pour ça, quoi.
L'idéal, ça serait que dans chaque carude, il y ait un petit coin d'injection, mais on n'en est pas encore là en France. Il faut encore prouver qu'il y a une utilité, et du coup, ça va être ça... La salle de conso qu'il va ouvrir normalement, ça va être la troisième en France qui va être rentrée dans une étude pour montrer que ça a une utilité.
Sensibiliser les gens, parce que bon, en plus, c'est fait pour réduire les risques, donc fournir du matos, un suivi, voilà.
Discuter des consommations.
Mais pas du tout pour se piquer, en fait.
Normalement, on peut faire des séances d'accompagnement à l'injection, donc ce qu'on appelle AERLI. En fait, en carude, c'est prévu que comme ça. Normalement, légalement, on peut le faire que sous forme d'accompagnement à l'injection, qui sont avec un professionnel, en fait, où on travaille sur un domaine précis, par exemple l'asepsie, un domaine précis que l'usager, l'usagère a besoin. Et du coup, c'est supervisé, donc c'est avec un professionnel, c'est pas on nous laisse tout seul dans notre coin.
Voilà, il y a de la légalité, de l'illégalité, mais je pense que c'est surtout le regard des autres. On va pas se piquer en public, ça le fait pas, ça la fout mal, quoi.
C'est plus ça et le fait que les déchets, après, qu'est-ce qu'on fait de la seringue
aussi, ouais.
Voilà, qu'est-ce qu'on fait de la seringue quand on la fait dans la rue? Est-ce qu'on la garde sur soi? Est-ce que, qu'il n'y a pas de récupérateur de seringue dans les rues? Du coup, ça, c'est une question aussi.
Il y a quelques-uns, là, les trucs où tu mets tes seringues usagées pour qu'ils t'en redonnent.
Ouais, quand
il n'y en a pas beaucoup. Ouais, voilà.
Il y en a il y en a trois.
Ah, je croyais qu'il y en avait six. Enfin, ouais, voilà.
Tu les vois où, les autres?
Je sais pas.
Je sais plus. Il y en a un à Avenue Gambetta, au Réformé.
Ouais.
Il y en a un.
Il y en a un que je vois, je sais plus où il est, mais il est loin.
Ouais, il y en a
très
un à la
Busserine.
Il y en a un à la Busserine depuis 2 mois, là.
Ok, bah, c'est un autre, du coup.
Moi, c'est les seules que je vois.
Ouais, bah, voilà, il n'y en a pas.
Où c'est donc un automate où on met une seringue sale et ça fait sortir une boîte, un stéribox avec deux seringues propres, et tout le matériel pour s'injecter par deux.
Et ça donne pas un lieu, c'est un distributeur, quoi. De toute façon, les gens qui s'injectent, ils continueront à s'injecter. Donc, à un moment, le problème se gère pas en fermant les yeux ou alors en crachant dessus, en les méprisant, etc. Je veux dire, il y a un moment, on peut pas enlever ça. Donc, adaptons aussi les espaces pour que les gens puissent le faire, en fait.
Ça peut aussi permettre à des gens qui sont jamais en contact avec des charrues ni avec du soin, quel que ce soit, de faire un premier pas dans un lieu où ils vont rencontrer des personnes, où ils vont pas forcément prendre un traitement ou quoi, mais c'est un premier pas de rencontre... aussi avec des professionnels de la réduction des risques. Et je me dis, si la salle de conso, elle arrive à être assez, conviviale, enfin que ce soit pas un truc médical aseptisé, qu'après il y ait une salle de détente un peu conviviale, je pense que c'est...
Ça peut faire se réunir les gens.
Dans ce contexte-là, ça... je pense que c'est beaucoup plus agréable qu'entre deux voitures,
qu'on a montré entre des voitures, derrière des poubelles, dans des toilettes.
Ouais, c'est ce qu'on voit sur les affiches, c'est les lieux de shoot, en fait.
Ça reste très solitaire, comme...
ça reste caché, pas très hygiénique aussi, on peut dire.
En fait, même chez moi, c'est un peu compliqué parce que il y a toujours quand même cette peur du regard. Même de mon propre regard, même mes propres potes ont peur de mon regard, en fait, et se cachent aussi, même chez moi. Et finalement, c'est pas du tout la bonne alternative que de leur offrir cet appartement parce que ça résout pas ce problème. C'est-à-dire qu'ils savent que je me shoote pas, qu'ils ont pas envie de faire ça forcément devant moi, que je retrouve plein de déchets partout forcément, et que du coup c'est pas gérable ni pour eux ni pour moi, parce qu'il y a toujours cette peur du jugement, ce manque de neutralité, on va dire, qui serait plus là du coup si une danse en même temps, ce serait plus neutre si voilà c'était un endroit spécialisé et non pas chez un ami, parce que c'est spécial de s'injecter. Il y a beaucoup de gens qui supportent pas de voir ça et je comprends que les gens, même quand je leur offre ça, ne veulent pas, se cachent aussi pour le faire.
Vous en discutez de ça?
Ouais, un peu. Et il y en a beaucoup qui disent juste voilà, c'est par pudeur, ou c'est. Il y en a même qui n'assument même pas prendre de la drogue chez moi, alors que je sais. Enfin, bon voilà, il y a beaucoup de raisons de beaucoup de gens. Il y en a qui assument totalement, il y en a qui veulent pas, qui se cachent, ça dépend vraiment, mais c'est vrai que la plupart du temps, ouais, ça se cache quand même chez moi. Du coup, le but, ce serait ouais, qu'ils puissent être dans un lieu où, en fait, il n'y a pas de... où tout le monde fait la même chose, tout le monde vient pour la même chose, et il n'y a pas du tout de jugement, quoi.
Elle n'est pas assez tendue, et vous voulez pas...
Et où c'est adapté aussi, justement, avec des professionnels, avec du matériel, avec des poubelles. Parce que bon, les seringues dans mes poubelles, c'est bien, mais bon... souvent, ils les gardent dans leur poche. Enfin bon, c'est pas très hygiénique non plus, quoi. On pourra pas enrayer la piqûre, donc il y a un moment, faut peut-être s'adapter aussi...
C'est difficile de retranscrire tout ce qu'il se passe. Surtout en images, elles sont souvent trop personnelles, inavouées, honteuses, sublimes et destructrices. Il est impossible de mettre en image tout ce que signifie l'injection pour les gens qui en sont addicts et pour ceux qui les suivent ou les accompagnent. Tu ne sais pas où te piquer ? T'inquiète, je t'emmène dans un bar, dans un parking, un hall d'entrée. Je t'aide si tu veux. Je te file du désinfectant ? Te tiens le garrot ? Il y a des enfants, des vigiles, des promeneurs, et finalement tu me demandes de t'accompagner pour te shooter autre part, ailleurs qu'à la vue de tous. Mais à deux, ça paraîtra sûrement moins glauque que dans la rue. Les passants auront peut-être un regard plus clément ? Viens chez moi au pire. C'est devenu un appart de shoot, alors même que je ne prends rien. Habitant au cœur de tout, lieu d'achat et assaut qui distribue du matos, je suis parfois la seule option pour ne pas se shooter au milieu des gens bien ou de la pisse. Cette odeur infecte des coins où personne ne peut passer pour vous juger ne pourra jamais se ressentir en photo. Elle est tellement puissante pourtant. Elle pique. On m'a déjà dit que le fixe devait être associé à quelque chose de désagréable, comme cette épouvantable odeur de déjection humaine, pour ne pas devenir trop bon et additif. C'est la parole de ceux qui veulent s'en sortir. Pour les autres, tout est différent. Tous se cachent pourtant. Ceux qui assument, n'assument pas ou n'assument plus. Même dans mon propre chez moi, j'ai été témoin de cette peur du jugement. Seringues, cups, filtres et sérums fi, retrouvés des jours, des semaines après usage, cachés dans tous les recoins de mon appart. Je pensais leur offrir un foyer bénéfique, mais ça ne l'a pas été. Pas pour tous. Ce n'est pas assez neutre. On a toujours besoin de ce lieu où l'affection n'est pas altérée par ce simple geste. Je ne me shoote pas. Je suis pourtant l'une des leurs. Une tox comme eux, qui par chance a le droit de se montrer car elle ne s'injecte pas sa cam. Elle la boit sous forme d'alcool et de médicaments, la fume sous forme de tabac. Mais là n'est pas le débat. Il serait bien trop fastidieux et chronophage de discuter de ce qui, pour l'heure, est en plus inutile et légal. Mais parlons de ce geste, celui de la cigarette ou de la seringue, celui qui reste au-delà de la substance comme une nostalgie, une habitude, un rythme de vie.
J'ai eu la chance de faire partie des gens qui ont écrit, justement parce que, en fait, je suis venue à Photovoix vraiment juste parce que je fréquente des gens qui se piquent, mais pas du tout parce que je me pique. Et justement, on m'a demandé d'apporter un regard un peu extérieur et intérieur en même temps. Étant donné que je pratique pas, mais que je vis avec, c'était un peu différent. Et du coup, on m'a demandé aussi de m'exprimer un peu là-dessus, sur comment moi je voyais les choses. Sans me piquer moi-même, en fait. Et je pense que c'est important aussi que les gens, du coup, qui... Moi, à la rigueur, ça me servira à rien, une salle de shoot. Mais justement, voilà. Et je trouve ça important que les gens puissent se rendre compte que c'est important, même si ça les concerne pas forcément. C'est pour ça que c'est génial de pouvoir faire comme ça, d'avoir autant de moyens de diffuser l'idée, voilà. Ce qu'on pensait peut-être. Enfin, moi, je pensais pas que ça irait jusque-là. À la base, c'était juste des photos. Et finalement, ça a pris de l'ampleur. Il y a eu des textes, il y a eu ça, il y a eu vous. Et voilà, ça va être sympa.
Yes.
Dans les locaux de l'association marseillais, le Tipeee, dans les locaux de la bibliothèque. Et on est en train d'essayer d'accrocher les bâches qui correspondent à un travail qui a été fait par les usagers de l'association, entre autres.
Vous êtes dans le travail du projet Eposim, hein ?
Ouais, je suis à l'origine un peu du projet avec Marie. Je suis chercheuse à l'INSERM en santé publique. Je m'appelle Perrine et voilà, on a initié le projet avec Marie Dos Santos, donc qui est sociologue. C'est la première fois que je mets en place un projet avec une telle méthode, les photovoix, et je dois dire que je vais probablement poursuivre l'utilisation de cette méthode. C'est vraiment intéressant de proposer que les personnes qui participent à la recherche puissent prendre des images, prendre des photos comme données scientifiques. C'est quelque chose de très riche. Voilà, et ça vient des usagers, c'est une recherche participative. Et ça va permettre aussi, en même temps que de, bah de d'être publié à travers des journaux scientifiques, de participer au plaidoyer pour, dans ce cas-là, donc l'ouverture d'une salle de consommation. Donc ça sert à la fois comme plaidoyer et comme résultat de la recherche, quoi, voilà. Alors EPOSIM, donc c'est l'acronyme de étude préliminaire à l'ouverture de la salle de consommation à moindre risque de Marseille. Puisqu'il y a un projet d'ouverture d'une salle de consommation qui n'est pas encore sûr, on ne sait pas si ça ouvrira ou pas, mais l'idée c'était à travers ce projet de documenter un peu l'injection dans l'espace public pour essayer de comprendre et de mesurer l'importance d'ouvrir un lieu où les usagers puissent injecter et de donner des arguments scientifiques à l'ouverture de cette salle. On accompagne ce plaidoyer et puis de toute façon je dois dire qu'on est un laboratoire INSERM qui travaille dans la recherche communautaire et on accompagne la volonté des usagers et voilà, et en tout cas les besoins des associations de terrain.
Et juste en la recherche communautaire, pour ceux et celles qui vont nous écouter,
la recherche communautaire c'est une forme de recherche scientifique académique mais qui va consister à faire participer les personnes concernées par la recherche dès le début de la recherche. Même au moment même où on pose la question de recherche, cette question, elle émerge des usagers eux-mêmes. Et on va aller chercher la question, les besoins, et on développe le projet avec eux, aussi bien dans la construction des outils que dans le recueil des données, que dans, comme ici, la valorisation des résultats.
Pourquoi tu as participé à ce projet EPOSIM ?
Parce que je suis consommateur. Je trouvais ça intéressant et bien, et que du coup le projet final ce serait pour avoir une salle de shoot, donc du coup c'est pour mettre la pierre à l'édifice. Si on fait pas ça, ça avancera pas, quoi, je pense. Donc c'est une manière de faire avancer le truc. Je t'avoue, j'ai un peu évolué dans mes pratiques. Ça peut m'arriver que je me shoote encore en extérieur, mais c'est plus rare, mais ça m'arrive encore. Mais je pense qu'il y en a. Et après, ils sont pas aussi organisés ou propres que tout le monde, que peut-être moi ou que certains. Enfin, il y en a. Et je pense que ça aiderait beaucoup, quoi. Ça aiderait beaucoup. Parce qu'il y en a, par exemple, ils connaissent pas, tu vois, le Tipeee, ou ils savent même pas que ça tombe. Il y a des endroits pour choper du matos propre ou des trucs comme ça, ou, tu vois.
Tout à l'heure, tu disais, je pense, que tu disais, mes pratiques, elles ont un peu évolué. Je pense que dans le groupe des gens qui ont participé aux photovoies, comme je disais, en fait, on est majoritairement, je pense, à s'injecter chez nous, à avoir des domiciles. Mais plus, en fait, on est dans la galère, plus on est dans la précarité, qu'on n'a pas de domicile et qu'on court toute la journée après l'argent et la drogue, et moins, en fait, on est en capacité de participer à des trucs, notamment comme ça. Donc, je pense qu'on représente un peu aussi la parole de ceux qui sont pas là parce qu'ils sont trop dans la merde. Mais quoi, on a pu passer des périodes comme ça, mais c'est plus accessible de participer à des genres de choses comme ça quand on est un peu moins précaire, quoi.
Alors du coup, on revient sur tes photos.
Oui.
Qui sont dans la revue Sans d'encre.
Voilà. Alors du coup, là, ça c'est un pote qui prend la photo de moi. Qui, je suis chez, bon, après là, je suis chez moi, mais bon. C'était histoire de faire une photo un peu vraie, quoi. Du coup, je suis en train de m'envoyer, enfin en train de me shooter. Là, c'est deux photos dans le parking de la plaine. Je sais que beaucoup de gens y vont. Voilà, sous les escaliers, quoi. Ou dans les escaliers. Souvent, ouais, Et la toxicomanie n'a pas d'horaire. Mais du coup, là, c'est un pote qui fait un shoot de cocaïne. Ça, c'est mon bras après l'injection. Donc, du coup, pareil, c'était pour faire une photo un peu, tu sais, montrer un peu du... Tu sais, des fois, genre, tu oublies de t'essuyer ou... tu sais, le sang, ça coule un peu vite. Enfin, voilà. Parce que des fois, ouais, t'as pas ce qu'il faut, t'as pas la lingette en question, la lingette alcoolisée, machin, désinfectante.
Et c'est là que les lieux de consommation à moindre risque
interviennent.
C'est intéressant d'en avoir avoir tout ce cadre.
Oui, parce que t'as tout, quoi, de A à Z. Enfin, du coup, t'as l'avant, t'as ce qu'il faut pour l'injection et pour l'après-injection. Donc c'est vraiment bien. Après, là, c'est juste un lieu de conso vers la Belle de Mai où voilà, il y a du matos qui traîne à terre et tout. Et là, pareil, c'est un sac de matos propre. Du coup, où je mets tout mon matos, où je prends en quantité, histoire de jamais tomber en galère. Du coup, voilà. La seringue, l'aiguille, la cup, c'est la cuillère pour mettre le produit, l'eau, la lingette, et après c'est tout le matos que tu peux avoir au Carude, par exemple au Tipeee, enfin dans les Carudes. Du coup c'est gratuit, enfin c'est à libre disposition. Donc, voilà. Sur l'expo, je pense que du coup les gens nous rencontreront et verront qu'on n'est pas si monstrueux que ça, si je veux dire ça. C'est après voilà que les gens. Bon, je demande pas que tout le monde soit d'accord, soit pour tout le monde se shoot, je sais pas ça non plus, mais je veux dire, je vois pas en quoi ça dérangerait aussi. Je crois même que ça arrangerait les gens lambda, on va dire. Qui est une salle de shoot. Enfin, je veux dire, il y aurait moins de gens dans. Enfin, tu retrouverais moins des gens dans une entrée ou dans ton parking quand tu vas chercher ta voiture ou des trucs comme ça. Je veux dire, au moins, on serait dans une pièce, enfin, un endroit structuré, propre. Et voilà, tout le monde y retrouverait son compte. Voilà.
Ok, ok.
Alors,
c'est beau.
C'est bien.
Qu'est-ce que vous attendez a priori des gens qui vont regarder ces affiches,
qui se rendent compte de réalités auxquelles, enfin, qui n'ont pas forcément conscience que ça se passe pas loin de chez eux, dans la ville, et voilà, c'est quand même marquant tout ça, toutes ces images.
Oui, l'idée c'est de faire réagir les gens, effectivement.
Juste, je voulais. Enfin, après, je sais pas, c'est peut-être personnel, mais je pense que cette vision-là, au niveau des photos, en tout cas, les gens l'ont déjà un peu par le biais des. Enfin, les films, les documentaires, les. Bon, voilà. Les campagnes de prévention, je sais pas quoi. Mais par contre, ce qui était intéressant, on disait avec Marie, c'est surtout de mettre ça en lien avec déjà le fait que ce soit vraiment pris par des consommateurs, enfin les photos et tout, ça donne un aspect un peu plus réel que ce qu'on peut voir, et puis aussi de mettre ça en lien aussi avec les chiffres, du coup comme Marie faisait remarquer là au niveau des gens qui pensent, enfin qui veulent fréquenter des salles de shoot et tout, enfin voilà, c'est des chiffres qui sont quand même super importants, donc ça peut faire réagir au moins les gens sur le fait que les consommateurs veulent de ça aussi, en fait. Ils souffrent aussi de précarité de lieux, je sais pas comment on dit, enfin du manque de lieux, et que du coup ils sont favorables à l'ouverture de salles de foot, quoi.
Il faut vraiment accompagner le plaidoyer autour de la salle de conso. On a ces résultats d'une enquête qui s'appelait Cosy Mars, en fait, sur les pratiques d'injection à Marseille. Et donc là, ces résultats, donc comme tu disais, sur 200 personnes qui ont été rencontrées dans des carudes et XAPA, donc les carudes avec lesquelles on travaille en partenariat, donc le Tipeee où on est aujourd'hui. Le carude, c'est un lieu d'accompagnement pour usagers de drogue. Dans lesquelles les personnes vont chercher leur matériel d'injection stérile. Et donc, Donc 200 personnes ont été rencontrées. Les résultats, c'est quand même 55% de ces personnes qui disent injecter quotidiennement. C'est 48%, et ça c'est un résultat important, 48% qui disent s'être déjà injecté rapidement par crainte d'être vu. Et ça, c'est, ça va avec également 39% qui se sont déjà injectés dans l'espace public. Donc ça vient dans le sens vraiment de la nécessité d'un espace où les gens pourraient s'injecter sans crainte d'être vus, et donc pouvoir prendre le temps pour éviter tous les risques qu'il y a à s'injecter dans des conditions qui sont pas optimales. Ensuite, le partage de matériel d'injection. Et toujours, tous ces chiffres sont à considérer comme pouvant susceptiblement être minorés, parce que les gens savent qu'il ne faut pas dire qu'on partage son matériel. Donc on peut imaginer qu'en plus, c'est un chiffre qui peut être supérieur à ça dans la réalité. Après, d'autres chiffres importants. Hein.
Sur la santé, du coup.
Ouais, sur la santé. Donc on voit que qui ont eu ou qui ont le VHC, donc l'hépatite C, c'est 51%. Qui ont le VIH, c'est 6,5%. Donc c'est encore des chiffres qui sont très importants. Qui ont déjà fait une overdose, 48,5%. 27% ont déjà eu des abcès au cours des 6 derniers mois. Et au cours des 6 derniers mois, 35,2% ont déjà été hospitalisés. Et les derniers résultats, en fait, de cette enquête, c'est 57,3% des personnes interrogées pensent qu'elles fréquenteraient la salle de consommation si elle était ouverte à Marseille. Et 41% souhaiteraient utiliser une salle pour consommer plus proprement. Et 30% répondent que si elles utilisaient la salle, ce serait pour la sécurité et le confort dans la salle.
Ah, mais c'est assez parlant. C'est assez parlant. Ça veut dire qu'il y avait un réel besoin et qu'il n'y a pas de réponse de la part des institutions.
Pour le moment, à Marseille, effectivement.
Et qu'on est dans une espèce de paradoxe, à savoir que nous, on distribue du matériel propre, on incite les gens à injecter proprement, on leur donne des conseils, on leur donne... Les gens, avec ces conseils-là qu'on leur donne, il faut prendre soin des veines, il faut désinfecter, il faut filtrer, etc., ils vont injecter entre deux voitures, ils vont injecter au parking, dans des conditions d'asepsie absolument nulles, rapidement, parce qu'ils ont peur d'être surpris, arrêtés, surpris, etc. Et donc, tous les conseils qu'on donne ici, de l'Écarude, ne peuvent pas être appliqués. Donc, on a ce paradoxe où... On incite les gens à, et on ne leur donne pas les moyens d'eux.
Ouais, voilà. Mais c'est ça, c'est l'idée. Hein. Et puis, photoshoot en extérieur, le point 3, là, c'est vraiment tous les lieux où les personnes ont déjà injecté ou qui représentent des lieux où ils s'injectent, quoi.
Il y a aussi beaucoup de parking, mais les photos...
Et le parking,
ouais.
Ouais,
les photos,
oui, c'est ça, elles rendaient
pas.
Et,
ouais, voilà. Et toutes les photos, la vitrine aussi, mais...
Ouais, pareil.
Mais ça, c'était pas des photos.
On les avait pas en...
On les avait pas en jetable.
Ouais,
on les avait pas en jetable.
Merci.
Donc, je suis Stéphane Acoca, directeur de l'association Assud Marseillais. Alors, Assud Marseillais, c'est un groupe auto-support qui donc, s'est réuni au milieu des années 90, en 95, ça a été créé par des usagers de drogue marseillais qui voulaient prendre part à la politique publique qui les touchait, puisque dans les années 80, jusqu'en 95-96, l'arrivée de la méthadone, le soin était allé exclusivement vers l'abstinence. Or, il y a un certain nombre de personnes qui ne voulaient pas, ne souhaitaient pas ou n'arrivaient pas à aller sur l'abstinence. Et donc, ils se sont positionnés pour essayer d'infléchir les politiques publiques pour rendre plus accessible la méthadone, ou en tout cas les produits de substitution. Les pouvoirs publics ont favorisé l'émergence de groupes d'autosupport d'usagers de drogue pour être partenaires, parce que il y avait vraiment une connaissance du public, des problématiques qui étaient vraiment peu connues des professionnels. Et du coup, en intégrant des usagers avec les professionnels, ça permettait d'être beaucoup plus efficace. Voilà. C'est un public qui a été très touché par l'épidémie de VIH dans les années 80. Et ça a été d'autant plus touché que au début des années 80, on était dans une logique où, pour diminuer l'usage de drogue, on a diminué l'accès au matériel de consommation, donc l'accès aux seringues, ce qui, avec le sida, a donné une catastrophe énorme sur les années 80. Ça a représenté près de la moitié des nouvelles contaminations étaient les usagers de drogue à cette époque-là. Les gens allaient acheter des vaccins pour la grippe et du coup ils récupéraient une petite seringue et quand il y en avait une, ils l'utilisaient, elle passait des uns aux autres et donc du coup ça a été une catastrophe dans le sens où il y a eu des contaminations importantes et plus il y avait de gens contaminés dans le milieu, plus il y avait de chances qu'une autre personne se contamine et donc voilà, ça a été un peu l'hécatombe à ce niveau-là. Et donc, à ce moment-là, on a commencé à réfléchir différemment. Donc, en 87, déjà, il y a la possibilité d'acheter des seringues en pharmacie. Puis, en 92, le fait que des associations puissent distribuer gratuitement du matériel. Au début, c'était simplement là-dessus. Et puis, on s'est rendu compte que le fait de distribuer uniquement du matériel ne suffisait pas. Il fallait aussi apprendre aux gens à l'utiliser, que les produits en eux-mêmes amenaient des difficultés et que donc du coup il y avait une réflexion à faire, sans être forcément dans une logique d'abstinence pour les personnes. L'idée c'est de pouvoir accompagner les personnes pendant le temps où elles sont dans leur consommation, ce qui implique de réfléchir différemment, c'est-à-dire que autant au début des années 80 on faisait tout pour, avec de la bonne volonté, mais pour essayer de faire que les gens ne se droguent pas et donc pour arrêter l'accès au matériel. Et on s'est rendu compte que c'était totalement faux, que les gens, d'abord, si on leur donnait le matériel, s'ils accédaient au matériel, ils le mettaient en place et ils l'utilisaient. Il y avait beaucoup de théories qui disaient qu'il y avait un instinct de mort chez ces personnes et que donc, du coup, ils se soigneraient pas, ils n'utiliseraient pas le matériel. Et en fait, les études ont montré que c'était faux et que ça marchait très, très bien si on donne les moyens aux personnes de pouvoir éviter les contaminations. Les gens font ce qu'il faut pour y arriver. En fait, l'idée, c'est d'accompagner les personnes en fonction de où elles en sont et de ce qu'elles désirent. On peut pas on peut les obliger à se soigner, mais pour peu qu'on comprenne ça pour une maladie, on peut pas les obliger à guérir. Et donc, il faut travailler avec les personnes là où elles en sont. Pour ceux qui voudraient arrêter, qu'ils puissent être orientés sur un sevrage. Pour ceux qui désiraient avoir une substitution, qu'ils puissent avoir une substitution. Et pour ceux qui ne désirent pas arrêter, qu'ils puissent avoir un accompagnement pour limiter les risques qui sont liés à ces consommations. Assud Marseillais, c'est une association marseillaise. Assud, c'est un groupe qui s'est monté en 91 au niveau français et qui a commencé à se développer sur le territoire en fonction des mobilisations locales. Par contre, un CARUD, c'est un sigle qui signifie, c'est un sigle barbare, qui signifie centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Il existait un certain nombre de structures qu'on appelait à l'époque des boutiques. C'est des boutiques, c'était à l'époque les Simone Veil et Douste Blasi qui avaient développé ça en 98. Et avant ça, c'était pas identifié comme boutique, mais il existait des lieux, notamment à Marseille, il y avait un lieu qui s'appelait Transit. Je crois que c'est 92 la création de Transit. À vérifier, il me semble que c'est 92. Et c'est des lieux où on accueillait les personnes qui étaient en grande précarité et où le préalable à l'entrée n'était pas d'arrêter les drogues. Les gens pouvaient venir trouver de quoi se laver, de quoi se nourrir, de quoi se reposer un moment, faire des pauses par rapport à leur consommation. On a vu que ça fonctionnait, ça a commencé à se développer. Donc Douste Blasi et Simone Veil ont développé les boutiques qui sont ensuite devenues des CARUD. Alors quand c'était des boutiques, on avait des financements qui étaient au coup par coup. Tous les ans, on était obligés, on passait une énergie très importante dans la recherche de financement. Quand on est devenu des établissements médico-sociaux qui sont habilités pour 15 ans avec des financements assez réguliers, ça a beaucoup facilité les choses. Par contre, il y a eu une injonction au niveau des pouvoirs publics de professionnaliser les équipes et de plus avoir, comme c'était au début, uniquement des usagers qui avaient pour diplôme leur parcours de rue et leur parcours dans les produits. Il a fallu mixer les équipes et ça c'est un virage qui a été très difficile à prendre pour ces groupes d'autosupport. Au niveau des contaminations, on avait très rapidement vu l'effet de pouvoir distribuer du matériel d'injection, parce que c'était essentiellement la contamination, c'était au niveau d'injection, au niveau du VIH, et ça a très bien marché, puisqu'au début des années 2000, on était autour de 1-2% de contamination, alors que ça représentait, selon les endroits, en France en moyenne, autour de 25%, et sur la PACA, c'était plus autour de 50% des nouvelles contaminations qui étaient des usagers de drogue. Voilà, c'était donc il y a eu un gros réservoir de virus par rapport à ça. Ce qui s'est passé, c'est que donc on voit qu'il y a vraiment eu un effet et la politique de réduction des risques, qui est quand même pas évidente à faire cohabiter dans un cadre prohibitionniste, puisque quelque part, avec quand on fait de la réduction des risques, on donne les moyens aux gens de se droguer en prenant le moins de risques possible, mais du coup, on les aide quelque part à se droguer. Donc là, il y avait un antagonisme qui n'était pas facile. Et en fait, ce qui a permis de passer par-dessus tous les clivages politiques et les représentations, c'est les résultats qui étaient là. C'est-à-dire qu'on voyait bien que, à la fois en termes humains, mais aussi en termes économiques, ça coûtait beaucoup moins cher financièrement, mais aussi en vie, d'aider les personnes que d'essayer de tenir des positions de principe qui sont on va pas les aider à se droguer parce qu'on est contre la drogue et alors qu'en fait les gens vont se droguer de toute façon et l'idée c'est d'ouvrir les yeux et de dire on leur donne les moyens. Donc ça a très bien fonctionné par rapport au VIH et au début des Carudes ça marchait bien. Par contre on s'est rendu compte le souci d'après ça a été l'hépatite C. Le problème de l'hépatite, en 2010, je dirais, il mourait 4 fois plus de personnes dans le milieu des usagers de drogue, 4 fois plus de morts de l'hépatite C que du VIH. L'hépatite C, c'est un virus qui est beaucoup plus difficile à traiter, au niveau prévention que le VIH. Le VIH, il meurt en quelques instants à l'air libre. À la différence de l'hépatite qui peut tenir plusieurs jours. Une des premières choses, c'est de dire il suffit pas de donner le matériel, il faut vraiment apprendre aux gens à l'utiliser, parce que il y a tous des risques de contamination avec le sang, des traces de sang qui peuvent être sur les doigts quand la personne a terminé, ce qu'on appelle les contaminations manuportées, ou quand une personne le fait à une autre, eh ben du coup il y a des petites traces de sang qui suffisent à faire des contaminations. Donc on a dit il faut absolument que les personnes puissent leur apprendre non seulement il faut qu'ils aient le matériel, mais il faut qu'ils sachent l'utiliser très très bien pour pouvoir passer à côté. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis 2015, il y a un nouveau traitement pour l'hépatite qui coûte cher, mais qui est super efficace et qui permet en 3 mois de soigner vraiment très très bien les personnes. Et donc du coup, on est monté comme ça, c'est-à-dire qu'au début, c'était le sida, c'était la préoccupation, c'est ceux qui faisaient mourir le plus. On est passé sur l'hépatite et on a eu des résultats qui sont pas mauvais sur l'hépatite aussi, même si il y a encore un gros travail pour arriver à éradiquer totalement le virus. C'est un de nos objectifs. On y travaille, mais c'est pas encore terminé par rapport à ça. Et le point d'après qui me paraît important, puisqu'au niveau santé, on va, je pense, arriver à circonscrire à la fois les problèmes au niveau du VIH et du VHC. Le point d'après, c'est vraiment au niveau politique, la place des drogues dans notre société, d'arriver à faire évoluer les choses par rapport à ça, puisqu'on sait que la prohibition n'a aucun intérêt, est totalement contre-productive, que ce soit au niveau économique, au niveau de la santé, et surtout aussi, nous on le remarque, au niveau des droits de l'homme. Puisque là, on s'aperçoit que... Alors, le public qui vient dans les Carudes, c'est pas l'ensemble des usagers de drogue, c'est vraiment les usagers qui sont plutôt en précarité. Il y a des usagers qui ne viennent pas et qu'on voit jamais par rapport à ça, parce qu'ils se débrouillent autrement, ils vont commander leur seringue sur Internet s'il y a besoin, ou des choses comme ça. Et donc là, le point qui me paraît vraiment important, c'est de travailler aujourd'hui sur les droits de l'homme et faire en sorte que les personnes qui sont usagères de drogue puissent accéder aux mêmes droits que tout citoyen lambda en France et en Europe, quoi. Ça fait des années qu'on souhaite monter une salle de consommation, puisqu'on sait. Alors voilà, les gens viennent au CARUD et si on écoute la loi uniquement, on doit leur donner du matériel et ils vont aller l'utiliser à l'extérieur, chez eux. Sauf s'ils n'ont pas de chez eux. Et là, donc, du coup, on s'aperçoit qu'il y a des risques importants, puisque pour une partie du public qui n'a pas de lieu d'appartement, ces personnes-là vont être obligées de consommer dans la rue. On sait que les consommations qui ont lieu dans la rue sont beaucoup plus à risque. Elles sont faites souvent dans la précipitation. Ça altère très fortement l'image de soi quand on est obligé de consommer à l'extérieur. Or, avoir une image de soi qui est dégradée, c'est aussi accepter de prendre des risques qu'on n'accepterait pas si on a une bonne image de soi. En termes d'accompagnement, on se rend compte que c'est vraiment intéressant. Parce que on est au plus près des pratiques des personnes la logique normalement dans un CARUD, là en tout cas en France, on n'a pas le droit de consommer et on sait que les consommations ont lieu soit dans les toilettes, soit dans les douches, en tout cas dans les coins où ça va avoir lieu dans des endroits qui sont pas appropriés par rapport à ça. Donc l'étude le montre clairement là vraiment et donc là on voit que le gros du problème. Le produit en lui-même, c'est une chose, avec ses risques qui sont associés, mais là, on a des risques qui sont énormes et qui sont liés simplement aux conditions de consommation. Et donc là, on peut faire quelque chose là-dessus. Alors, encore une fois, il ne faut pas faire l'autruche et dire la loi l'interdit, donc du coup, on ne pourra pas le faire. Cette loi, elle est expérimentale, elle nous permet de dépasser le cap de la loi de 70 qui interdit de mettre à disposition un local pour consommer des drogues, entre autres. Et du coup, ça nous permet, ça pourrait donc permettre à des personnes qui vivent en grande précarité, qui consomment, comme l'a montré l'étude, dans des conditions qui sont vraiment pas sûrs au niveau de la santé, pas dignes par rapport à eux-mêmes, de pouvoir les amener à consommer dans la mesure où ils le font, dans la mesure où on leur donne le matériel. C'est un peu débile de s'arrêter à ce moment-là, alors que le besoin, il serait d'aller plus loin. Donc, c'est des solutions qui existent. Je crois qu'il y en a 80 des salles de consommation dans le monde. Il y a pas mal de pays qui ont inventé. Genève vient de fêter la semaine dernière ses 20 ans d'ouverture. On voit clairement que, de la même façon, c'est pas parce qu'on vous donne une seringue que vous allez l'utiliser, parce que c'était un peu la crainte au début, si on donne des seringues comme ça, les gens vont se mettre à les utiliser. En fait, on sait aujourd'hui que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et sur les salles de consommation, ça va pas susciter des vocations pour des gens qui prenaient pas de drogue. Ça va faire que des gens qui prennent des drogues dans des conditions très difficiles vont pouvoir venir et du coup être en contact avec le réseau de soins et du coup sortir de leur isolement pour pouvoir en fonction de leur envie, de leurs besoins, pouvoir travailler, aller sur réguler plus leur consommation. En tout cas, on voit clairement dans les études, y compris la dernière de l'INSERM, que ça favorise l'accès aux soins pour les personnes qui en seraient désireuses. Vu qu'il n'y a pas de lieu, et l'étude l'a montré, les gens vont consommer dans des cages d'escalier. Donc c'est clair que si on a une famille, ça entraîne un certain nombre de nuisances pour le voisinage, y compris des fois des gens qui laissent traîner du matériel, même si ce n'est pas la majorité. Mais les salles de consommation, c'est à deux niveaux, c'est-à-dire à la fois pour les usagers, donc tous les avantages que j'ai pu présenter tout à l'heure, mais aussi en termes au niveau des voisins, au niveau des gens qui vivent à proximité, mais ça fait que ces consommations-là, quand elles ont lieu dans une salle, elles n'ont pas lieu dans la cage d'escalier, sur le trottoir entre deux voitures, des choses comme ça. Donc l'idée, c'est que une salle de consommation, c'est pas la solution à l'usage de drogue pour les gens qui sont en précarité, c'est une partie de la solution qui permet de réguler ce qui se passe dans l'espace public par rapport aux riverains qui ont à subir tout ça. On sait qu'il y a des personnes qui habitent dans des endroits où elles vont être très confrontées à des sessions de consommation. La réduction des risques, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que entre le top qui serait de consommer chez soi ou de pas consommer de façon injectable ou de pas consommer de drogue, entre tout ça et la situation de la personne, eh bien, il faut qu'on arrive à faire une gradation là-dessus et de pouvoir proposer des solutions, pas toutes faites, des pistes de solutions pour que la personne puisse aller trouver la solution qui lui va bien, qui correspond à là où elle en est. Les salles de consommation, ça va aider les personnes qui sont, particulièrement ceux qui sont très éloignés du système de soins et tout ça, et ça va aider aussi au niveau des riverains. Voilà. Mais c'est pas tout seul, c'est pas magique et ça va pas régler tous les problèmes. Je pense que sur le principe, la majorité des gens comprennent l'intérêt. Par contre, la difficulté, c'est quand on leur dit ça va être en bas de chez vous. Donc nous, pour défendre ça, à un moment, l'idée, c'est que les gens prennent conscience que c'est là et que nous, on va tout faire pour faire en sorte qu'ils aient le moins de difficultés possible. C'est-à-dire de pouvoir d'abord travailler avec eux le projet, travailler avec eux au niveau du quartier pour voir quels sont les endroits où il peut y avoir des difficultés en amont du projet, tout ça. Puis pendant le projet, pouvoir, dès qu'il y a le moins de soucis qui nous sollicitent et qu'on puisse aller répondre par rapport à ça, point par point. Et ce qu'on a vu dans les expérimentations qui ont lieu, c'est que quand toute la partie médiation avec le voisinage est faite correctement, ça fonctionne. Et au bout d'un moment, les gens, particulièrement quand ces dispositifs, les salles de consommation sont implantées dans un endroit où il y a beaucoup de nuisances, c'est pas une nuisance en plus, au contraire, c'est moins de nuisances. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment de travailler, que les gens ils puissent entendre ça. Ça fait partie de la loi, ça fait partie des expérimentations dans notre société, qu'à un moment, on peut essayer de repousser, mais que c'est pas la bonne logique dans laquelle on est. L'idée, c'est au contraire d'accueillir. Et pour bien faire, il faudrait pas qu'il y ait une seule salle sur Marseille, il faudrait qu'il y en ait plusieurs. Il y a des pays où chacune des structures a un espace de consommation. Ce qui permet de pas centraliser tout à un seul endroit, mais plus, qu'il y ait moins de monde un peu partout, quoi. Voilà. Mais là, on n'en est pas là. On est encore dans le cadre de l'expérimentation. L'INSERM a sorti une première analyse il y a 2 semaines. Et l'expérimentation continue puisque ça va se terminer fin 2022. Et nous, on souhaite donc essayer d'intégrer l'expérimentation sur Marseille.
Vous aurez compris après avoir écouté ce reportage que cette expo éponyme est le fruit d'un travail à la fois collectif et de recherche pour défendre la nécessité d'une ouverture d'une salle de consommation à moindre risque. J'espère que ce documentaire sonore vous aura apporté quelques éléments de réflexion pour comprendre que l'ouverture d'une salle de consommation à moindre risque est nécessaire, et ce pour répondre aux besoins des usagers, mais aussi de trouver quelques éléments de solution pour réguler ce qui se passe dans l'espace public. Dans ce document sonore, certaines personnes sont restées anonymes, d'autres pas. Je remercie toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce document sonore. Prise de son, réalisation, montage, signé Yeterakias, juin 2021.
Sur Radio Galère 88.4.